Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse. Et ce matin avec Enquête de santé sur France 5, une émission consacrée aux erreurs médicales. On n'en connaît pas exactement le nombre, selon des associations de patients, 450 000 événements indésirables graves arriveraient chaque année et seraient à l'origine de 60 000 décès, des erreurs médicales variées, de diagnostics, de prescriptions de médicaments, d'opérations, d'oubli d'instruments chirurgicaux dans le corps. Les soignants ne sont pas infaillibles et l'aléa thérapeutique est toujours possible, mais comment expliquer ces erreurs, ces fautes, ces décisions absurdes qui peuvent mener au pire? Quels sont les recours quand on est victime d'une erreur médicale? Nous attendons toutes vos questions et vos témoignages au 01 45 24 7000. Vous pouvez également laisser un message ou une note vocale sur l'appli France Inter. Bonjour Baptiste Beaulieu.
Bonjour Ali.
En duplex de France Bleu à Toulouse, médecin et romancier, quel est le menu de votre chronique? Alors voilà.
Eh bien, comme on parle d'erreur médicale ce matin, je vais essayer de m'exprimer sur les victimes collatérales de la crise sanitaire.
A tout à l'heure, bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
L'anesthésie, c'est important, on fait pas n'importe quoi quand on est anesthésiste. Hein. Il avait ma vie entre ses mains et en fait, j'ai failli me retrouver au cimetière. Quoi. Ça n'a pas l'air de le gêner d'avoir gâché toute ma vie, la vie de mon mari, de mes enfants.
Ce que j'attends de la justice, c'est qu'on puisse dire « oui, il y a une faute ». Et je pense qu'aujourd'hui, ce médecin, c'est ma conviction personnelle, le sait qu'il a dérapé.
Et quand il y a un homicide involontaire, et ben, on a besoin de réponse.
Comme dit mon avocat, ce qu'ils espèrent maintenant, c'est que qu'il vous arrive un problème, il n'y aura pas de procès. Mais maintenant que le procès est engagé, j'irai jusqu'au bout. Pour lui, pour moi, pour mes enfants.
Bonjour Bruno Timsit.
Bonjour.
Vous avez réalisé Erreur médicale, le combat pour la vérité, diffusé demain à 20h55 dans Enquête de santé sur France 5, présenté par Marina Carrère-Dancos. Alors j'ai été impressionné par la force et la dignité des témoins victimes d'erreurs médicales et leurs proches.
Oui, bah écoutez, on a en effet des témoignages assez forts de ces victimes qui, on peut le dire, subissent une double peine le plus souvent, c'est-à-dire qu'elles sont victimes d'une erreur médicale avec des conséquences dramatiques, mais en plus derrière, elles ont du mal à faire reconnaître la faute par le médecin qui a commis cette faute quand il s'agit d'une faute, et puis s'engagent ensuite dans un combat judiciaire qui peut durer des années, qui est extrêmement pénible et un combat très inégalitaire puisque en face, il y a des institutions, des médecins, souvent des assurances adverses qui essayent de faire en sorte de pas reconnaître les fautes et de payer le moins possible d'indemnisation quand il y a lieu.
Diviser des victimes et des proches.
Oui, les proches, puisque voilà, malheureusement, bon, il y a dans ce documentaire on raconte des histoires de personnes décédées suite à des erreurs médicales, et donc là, ce sont leurs proches qui se battent pour essayer d'obtenir justice. D'abord, comprendre ce qui s'est passé, puisque c'est souvent le premier problème, c'est-à-dire savoir ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a eu faute ou pas. Ils ont généralement beaucoup de difficultés à obtenir des informations, alors qu'ils sont évidemment à ce moment-là dans une grande peine immense, comme on peut l'imaginer. Et puis derrière, bah, c'est un combat judiciaire sans fin. Voilà.
Bonjour docteur Frédéric Martin.
Bonjour.
Vous êtes anesthésiste réanimateur à la clinique des Franciscaines à Versailles. Vous êtes le fondateur de la plateforme Anesthesia Safety Network qui compile des retours d'expérience de professionnels sur les erreurs à ne pas faire, c'est ça ?
Tout à fait, qui est devenu maintenant Patient Safety Database, vu qu'on a décidé de s'adresser à l'ensemble du système de santé.
Bonjour Christian Morel.
Bonjour.
Vous êtes sociologue et vous avez publié une série de livres fameux consacrés aux décisions absurdes, aux grandes erreurs collectives. Et je me suis appuyé pour cette émission sur le deuxième tome des décisions absurdes publié chez Folio. Bonjour Magali Bouteille, brigand.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l'Université du Mans et vous avez publié chez Ellipse les indispensables du droit médical. Alors les erreurs médicales sont très variées, hein, Bruno Timsit, hein, de la pince laissée dans l'abdomen après une intervention chirurgicale à la mauvaise prescription de médicaments. L'éventail est très large.
Oui, l'éventail est très large et il faut distinguer aussi ce qui est de la faute du médecin et puis aussi ce qu'on appelle un aléa thérapeutique, c'est-à-dire finalement ce qu'on appelle la faute à pas de chance, c'est-à-dire une opération qui se passe mal sans qu'il y ait de faute avérée. Mais oui, il y a beaucoup d'erreurs médicales, et ce qui est très troublant, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'il y a pas de chiffres, en fait. C'est-à-dire que on a, en effet, on peut en répertorier beaucoup des erreurs médicales, voilà, en particulier en chirurgie, mais dans beaucoup de domaines, des erreurs de diagnostic, etc. Mais on n'a pas aujourd'hui de données chiffrées, ou très peu, ou alors les chiffres sont très anciens, parce qu'il n'y a pas vraiment de registres qui les répertorient suffisamment, malheureusement.
On va revenir sur ces chiffres. Christian Morel, les erreurs médicales ne sont pas forcément le fruit d'une faute.
Exactement. Je pense qu'il faut distinguer la faute majeure et des enchaînements d'erreurs. Je vais donner un exemple très concret. Donc, il y a une erreur, c'est un patient qui doit se faire opérer d'une épaule et la radio, il y a une aversion de côté de la radio. Ensuite, le patient est préparé du bon côté parce que il sait de quel côté il a mal, mais derrière il y a une penseuse qui va vérifier par rapport à la radio, il y a eu une erreur et qui va se dire par rapport à la radio, on s'est trompé. Et donc elle prépare le patient de l'autre côté. Le chirurgien arrive dans le bloc, le patient est là et il est appelé en urgence, il a revu le dossier du patient, il sait de quel côté il faut l'opérer. Il est appelé en urgence dans un autre bloc, il va y passer 3 heures. Pendant ce temps-là, l'interne prépare le patient du mauvais côté, parce qu'il n'a pas revu le dossier. Et quand le chirurgien revient, eh bien, il est fatigué. Il a passé 3 heures dans un bloc opératoire pour une opération difficile, et il ouvre du mauvais côté. Alors là, qui va-t-on sanctionner ? Hein, ça n'a pas de sens de sanctionner la penseuse qui a vérifié par rapport à la radio, ça n'a pas de sens de sanctionner le chirurgien, l'interne. Donc ici, ce qu'il faut voir, c'est que le système n'était pas sécurisé. Et ce qui est important, c'est qu'il y ait un retour d'expérience pour voir comment on peut améliorer la signalétique de la radio, le fait qu'il y ait eu 2 penseuses qui soient intervenues sur le patient... éviter la fatigue du chirurgien qui opère après avoir passé 3 heures dans un bloc, etc., etc.
Frédéric Martin, c'est un vrai sujet, un vrai sujet tabou, les erreurs médicales chez les soignants.
En fait, de mon point de vue, c'est un sujet tabou parce qu'en fait, on mélange tout. On mélange, comme le disait Christian Morel, les fautes qui sont impardonnables, qui sont dues à des déviances de pratique, qui sont anormales, et puis les erreurs de routine, les erreurs d'application de procédure, ou les erreurs également de connaissance. On traite pas pareil ce type d'erreur. Faut bien comprendre qu'il y a 3 vagues successives qui intéressent et qui permettront de gagner en fiabilité dans notre système de santé. Que l'erreur, elle est inhérente à toute activité humaine et qu'on fait des erreurs. Moi, je fais des erreurs régulièrement, mais par chance, soit je vais les récupérer moi-même par des stratégies que j'ai mis en place, soit mes collègues autour de moi, le patient, pourra aider également à récupérer ses erreurs. C'est des choses très importantes à prendre en compte.
Baptiste Beaulieu.
C'est compliqué parce que on a toujours l'impression qu'on met en accusation les médecins quand on parle de ce sujet-là, et les médecins sont tout de suite sur la défensive, alors que en fait on gagnerait à penser contre nous-mêmes, et notre profession gagnerait aussi à se dire oui, ça existe, et ça existe parce que nous ne sommes pas des robots, et c'est tout l'honneur de notre profession de ne pas être des robots, mais essayons de faire en sorte pour que ce soit le moins souvent, le moins grave possible, et puis de toute manière, on doit être et on doit toujours être du côté des patients.
Magali Bouteille, Brigand, les soignants sont soumis à une obligation de moyens ou de résultats dans le domaine de la santé ?
Alors, de moyens de manière par principe, avec quelques exceptions cependant en matière d'infection nosocomiale. Il y a quelques autres exceptions, mais le principe, c'est que le soignant est soumis à une obligation de moyens. Et je voulais rebondir sur ce qui avait été dit avant sur les fautes. En droit, effectivement, vous avez la faute médicale. La responsabilité d'un médecin ne pourra être engagée que si on démontre une faute, c'est-à-dire s'il a manqué aux règles de l'art, s'il n'a pas prodigué des soins consciencieux et conformes aux données acquises de la science. En revanche, je rebondis sur l'exemple qui a été donné, on peut engager la responsabilité d'un établissement de santé pour une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service. C'est-à-dire que quand je parle de l'exemple avec les 2 penseuses, là, on pourrait tout à fait envisager la responsabilité de l'établissement de santé. C'est pas une faute technique, c'est une faute dans l'organisation qui a conduit à un dommage du patient.
Magali Boutaille-Brigand, vous pouvez préciser ce qu'est exactement une obligation de moyens ?
Alors l'obligation de moyens, c'est l'obligation pour un médecin de mettre en œuvre les moyens appropriés pour traiter le patient. Pour traiter, également pour prévenir, pour diagnostiquer. Mmh. Donc il doit mettre en œuvre tous les moyens. Par exemple, si on a un patient qui se présente avec, une douleur thoracique, il doit lui prescrire les examens qui permettront de bien vérifier. Si jamais il ne prescrivait pas ça, alors que dans les protocoles médicaux, c'est quelque chose qui est prévu, alors on pourrait éventuellement identifier une faute.
Alors j'aimerais qu'on revienne sur les chiffres des erreurs médicales. Christian Morel, il y a une dizaine d'années, à Washington, vous assistez à une conférence sur la fiabilité dans le domaine de la santé, et vous appreniez que 40 fois par semaine, des médecins se trompent d'individus ou de zones corporelles lors d'une intervention chirurgicale. Environ 2080 erreurs de côté ou d'identité commises environ chaque année dans les salles d'opération aux États-Unis. C'était il y a 10 ans donc, de l'autre côté de l'Atlantique. Et en France, en 2021, existe-t-il des chiffres fiables ?
Alors, ce qui est important, c'est de prendre en compte les facteurs humains concernant les erreurs médicales. Et on vient de parler d'organisation. Il y a eu une étude qui a été faite en Israël, dans des hôpitaux israéliens, qui ont montré que lorsqu'il y avait un certain nombre de procédures à respecter, il y avait un certain taux d'erreurs médicales. Quand on augmentait le nombre de ces procédures, il y avait une amélioration, le taux d'erreur médicale baissait. Mais quand on ajoutait encore des procédures, eh bien le taux d'erreur médicale, au lieu de baisser, remontait en flèche.
Pourquoi ?
Parce que lorsqu'il y a trop de règles, eh bien ça crée de la confusion, ça crée de l'incertitude. On ne sait plus à quelles règles il y a des règles contradictoires. Donc en matière d'organisation, il faut trouver un juste milieu en matière de règles. Et par ailleurs, je voudrais insister sur les problèmes de langage, hein, pour montrer la difficulté de déterminer la faute. Par exemple, un enfant a une fracture du tibia et le chirurgien dit à l'infirmière « fais-moi un de morphine ». Pour le chirurgien, ça veut dire 1 mg et l'infirmière comprend une ampoule de 10 mg. Et alors là, on se pose la question, où est la faute, où est l'erreur ? Donc c'est le problème de la signalétique des médicaments qui est un domaine lui aussi extrêmement important.
Docteur Frédéric Martin, pourquoi est-il si difficile de trouver des chiffres fiables sur le nombre d'erreurs médicales chaque année en France ?
Parce que c'est un sujet, comme vous disiez hein, tout à l'heure, qui cristallise la peur. Faut pas oublier que les premières victimes, ce sont les patients et leurs familles. La souffrance qu'ils vivent, les dommages qu'ils subissent, le temps qui passe pour essayer de réparer ces problèmes, c'est une souffrance atroce. Les soignants, eux aussi, aucun soignant, aucune institution ne s'est organisée pour faire en sorte que on allait commettre des erreurs. Personne ne se lève le matin pour se dire, aujourd'hui, je vais faire n'importe quoi. Non. Donc, le problème, il est là, c'est qu'en fait, ça vous renvoie finalement à vos failles, à vos insuffisances, et vous le gardez en tête toute votre vie. Moi, j'ai eu des situations où j'avais des prises en charge qui n'étaient pas parfaites. Alors évidemment, quand on les regarde avec les yeux, on connaît la fin de l'histoire, donc on regarde le passé, tout est évident. Sauf que à l'instant T où on a pris les décisions de façon collective, cet avenir, il est complètement incertain.
Pour l'ultime site, les soignants ont-ils l'obligation de déclarer les événements indésirables graves, les erreurs médicales, sur un site gouvernemental ?
Alors, ils sont censés le faire, mais il n'y a pas d'obligation à proprement parler. Et c'est bien le problème, ce qui fait que les informations ne remontent pas ou pas suffisamment, et ce qui fait qu'évidemment, les problèmes ne peuvent pas être réglés, parce que si on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne peut pas proposer des solutions.
Christian Morel.
Oui, par rapport aux remontées des informations sur les erreurs, je voudrais insister sur l'importance de la non-punition des erreurs non intentionnelles. Donc il existe dans les hôpitaux ce qu'on appelle des retours d'expérience ou des revues de morbi-mortalité, mais si il y a eu une erreur et que les infirmières n'osent pas dire ce qui s'est passé parce qu'elles ont peur d'une sanction si elles disent ce qui s'est passé, elles se tairont. Et la remontée des événements indésirables graves est supposée accompagnée de non-punition des personnes qui déclarent ces événements indésirables graves. La punition est, la crainte de la punition est dévastatrice. Et dans des, je fais partie d'une association Facteurs Humains en Santé qui a pour but de promouvoir la sécurité et la qualité des soins et en insistant sur les facteurs humains. Et on diffuse des outils pédagogiques, on mène des actions auprès des organisations de santé. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans cette association, il y a des médecins, des anesthésistes, des chirurgiens, des infirmières, mais aussi des pilotes de ligne et des contrôleurs aériens. Pourquoi ? Et des sociologues. Et pourquoi ? Parce que l'idée, c'est d'appliquer à la santé les méthodes robustes de l'aéronautique qui ont permis un grand progrès en matière de sécurité.
On y reviendra tout à l'heure. Docteur Frédéric Martin, comment fonctionne votre plateforme de partage de retours d'expérience anonyme et gratuite dédiée aux professionnels de santé ?
Alors, on part du principe que on essaie justement de mettre en place cette culture juste et équitable. Donc on n'est pas des donneurs de leçons, on essaye de sensibiliser. C'est un outil pédagogique qui est gratuit, qui est en français et en anglais, et qui permet...
Rappelez le nom.
Patient Safety Database. Et qui maintenant a une bonne notoriété. On a des partenariats avec des organisations anglo-saxonnes. Et les anglo-saxons ont une petite avancée sur nous, c'est qu'ils ont une approche de l'erreur qui est complètement différente. Et le plus important, c'est faut bien comprendre que quand on travaille ensemble, quand on apprend son métier, on l'apprend par les connaissances théoriques, par aussi les connaissances pratiques, l'expérience, mais on perd tout ce qui est super important qu'à l'aéronautique, avec le fameux bar des aviateurs où on s'échange des histoires, des petites histoires entre deux interventions, enfin entre deux vols. Et cette partie, ce partage d'expérience, c'est quand même dommage qu'on ne puisse pas récupérer finalement, recycler. C'est du développement durable en fait dans le système de santé.
Alors avant de prendre Mathilde qui nous a appelé au standard, j'aimerais qu'on définisse ce qu'est une erreur médicale. Magali Bouteille, d'un point de vue juridique, c'est quoi une erreur médicale ?
Alors, les erreurs médicales, il n'y a pas de définition juridique de l'erreur médicale. Par contre, il faut bien avoir en tête que l'erreur médicale, en elle-même, n'est pas sanctionnable. Mm-hmm. C'est-à-dire, toutes les erreurs médicales n'entraîneront pas une responsabilité du médecin. Je m'explique. Pour engager la responsabilité du médecin, il faut une erreur fautive. Mm-hmm. Par exemple, une erreur de diagnostic. Étant donné que le médecin est tenu à l'obligation de moyens, vous me signaliez tout à l'heure. S'il a mis en œuvre il a été diligent, c'est-à-dire s'il a mis en œuvre tous les examens possibles pour diagnostiquer, mais que malheureusement il passe à côté de quelque chose, vu que c'est un art qui est, on va dire, imparfait, il n'y aura pas de responsabilité. Donc en fait, l'erreur médicale, ça recouvre tout un tas d'hypothèses, dont la faute.
Avec deux grandes fautes, hein, pour le dire schématiquement, la faute de négligence et la faute d'imprudence.
Et pas seulement.
Et pas seulement, mais c'est deux fautes, assez communes quand on parle d'erreur médicale.
Alors il y a la faute de négligence, effectivement, l'imprudence, mais il y a pire que ça. Il y a aussi un manquement délibéré à une obligation de sécurité. La négligence et l'imprudence, si vous voulez, c'est des fautes, on va dire, par absence de commission, par omission. Mais il y a des fautes par commission. On commet un acte qui est vieux, qui est, par exemple, je vous donnerai des exemples. On va dire qu'il y a une négligence si le médecin omet un examen.
D'accord.
Par contre, il peut aussi, en étant absent sur ses heures où il était d'astreinte, à ce moment-là, on peut dire qu'il a commis également une faute.
Docteur Frédéric Martin.
Oui. Alors, ce que je veux juste dire, c'est que j'aimerais qu'on. Alors, c'est pas du tout pour se cacher derrière le fait que je sois médecin, mais qu'on ait vraiment une approche systémique. Et c'est ça qui est intéressant. C'est James Reason, qui est un célèbre psychologue qui a beaucoup travaillé sur les organisations à haut risque. Il parle souvent considérant que finalement c'est le système qui est défectueux et que finalement le dernier acteur, que ce soit une infirmière, une aide-soignante, un médecin, un chirurgien, c'est souvent l'héritier d'un breuvage létal long à concocter. Ce qui est intéressant, c'est, enfin, de mon point de vue, et je pense que ça intéressera aussi moi en tant que patient et puis les autres patients, c'est d'avoir une approche qui va prévenir la survenue de ces erreurs. L'indemnisation, c'est vraiment la phase ultime quand on essaye d'atténuer le dommage au patient.
Bruno Timsit. Oui, on voit dans votre documentaire des fautes graves, intentionnelles, commises par des soignants.
Tout à fait. Alors là, on est dans un autre registre. Alors intentionnel, en tout cas, c'est la justice qui le dira. Mais en tout cas, oui, on parle d'une affaire qui est une assez grosse affaire, une affaire importante qui se passe à Grenoble depuis quelques années. Là-bas, il y a un chirurgien du rachis, donc la colonne vertébrale, qui est accusé d'avoir pratiqué plusieurs dizaines d'opérations qui n'étaient pas justifiées, et avec des conséquences terribles, puisqu'il y a des dizaines de patients blessés, beaucoup sont en invalidité, il y a eu 2 décès aussi, et on fait témoigner dans le documentaire justement la famille de l'une de ces victimes décédées, et en effet, on peut tout à fait se poser la question du pourquoi, et avec notamment d'éventuelles motivations financières, puisque c'est quelqu'un qui opérait beaucoup. Il y a eu même un rapport de la Sécurité sociale qui établissait qu'il opérait 4 fois plus que ses confrères, donc pour des opérations du dos qui sont des opérations extrêmement sensibles, avec une prise de risque énorme, sur des patients qui n'avaient pas forcément besoin d'être opérés, puis sans, semble-t-il en tout cas, nécessairement prendre la peine de faire tous les examens nécessaires au préalable.
Et dans un instant, nous verrons comment surviennent les erreurs médicales. Nous attendons vos témoignages et vos questions au 01 45 24 7000 ou en laissant une note vocale sur l'appli France Inter. Et on écoute Wilson Pickett, In the Midnight Hour. Wilson Pickett, In the Midnight Hour.
Grand bien vous fasse, Ali Rebbi, sur France Inter.
Il est précisément 10h30, on s'intéresse ce matin aux erreurs médicales avec l'émission Enquête de Santé sur France 5. Question témoignage au 01 45 24 7000.
Il y a 3 ans, Nathalie est devenue sourde et paraplégique à cause d'un accident d'anesthésie. Le 11 janvier 2018 au matin, Nathalie se rend dans une clinique du Val d'Oise. Au même moment, au bloc opératoire, l'anesthésiste prépare le matériel pour l'intervention. Une seringue contenant un produit anesthésiant et une autre avec de la gentamicine, un puissant antibiotique à utiliser en intraveineuse pour prévenir les infections. Selon l'expertise, à 10h15, pour une raison encore inexpliquée, l'anesthésiste inverse les 2 seringues et injecte la gentamicine dans le liquide céphalo-rachidien qui entoure la moelle épinière de Nathalie. Ainsi administré, le produit est extrêmement toxique pour le système nerveux. À 17h, le mari de Nathalie est convoqué par l'équipe médicale.
On vous dit, l'anesthésiste va vous recevoir, il vous reçoit, et il vous dit, il y a un problème, madame se réveille pas, je comprends pas pourquoi, donc on préfère l'envoyer en réanimation sur un autre hôpital. Alors que rétroactivement, je sais qu'il savait déjà ce qu'il avait fait. Et c'est là où je le vomis, quoi, ce mec-là.
Bruno Timsit, vous avez réalisé ce documentaire « Erreur médicale, le combat pour la vérité ». Ben là, sur ce témoignage,
ouais, c'est l'histoire de Nathalie qui est terrible. Nathalie, donc, elle est sourde et paraplégique aujourd'hui. Elle a une cinquantaine d'années. Ce qui s'est passé, c'est que elle courait, elle faisait des semi-marathons et elle avait un rêve, c'était de courir le marathon. Sauf qu'elle avait un petit problème de fuite urinaire assez commun et donc elle a décidé de subir une petite intervention, qui est la pose de bandelette urinaire, qui est une opération tout à fait bénigne en ambulatoire, assez simple, semble-t-il. Sauf que ce jour-là, l'anesthésiste se trompe de seringue et lui injecte un produit extrêmement toxique. Et du jour au lendemain, sa vie bascule. Elle est 6 jours dans le coma et elle parviendra jamais à retrouver l'usage de ses jambes. Et puis elle est sourde également. Et puis elle s'est lancée dans un combat qui est extrêmement long, puisqu'il a fallu faire reconnaître la faute de cet anesthésiste, qui est une faute énorme. Il s'est jamais excusé non plus, ce qui est un autre problème quand on doit se reconstruire. Et puis, surtout, elle a des séquelles immenses, une maison à adapter complètement à son handicap, et puis des fonds qui n'arrivent pas. Elle a eu quelques avances, des assurances, mais aujourd'hui, c'est une histoire qui n'est pas terminée. 3 ans et demi après les faits, elle a toujours pas reçu d'indemnisation à la hauteur du préjudice immense qu'elle a subi.
Magali Bouteille, vous êtes maître de conférence en droit privé. Il faut bien distinguer l'erreur médicale de l'aléa thérapeutique. Expliquez-nous ce qu'est l'aléa thérapeutique.
Alors l'aléa thérapeutique, ça permet d'indemniser en fait quand il y a un événement qui entraîne un dommage anormal pour le patient au regard de l'évolution prévisible de son état de santé. Pour lequel il n'y a pas de faute qui a été commise, ce qui ne correspond pas d'ailleurs à ce que vous venez de mettre en évidence. Là, c'était pas un aléa thérapeutique. Là, c'est vraiment une faute de la part du médecin. L'aléa thérapeutique, c'est vraiment, tout à l'heure on parlait de la faute à pas de chance, c'est un peu ça. Depuis 2002, le législateur a décidé de permettre l'indemnisation de cet aléa thérapeutique sous certaines conditions.
Et je précise que selon la revue de l'assurance française, l'aléa thérapeutique est l'aléa lié au danger d'un acte médical ou paramédical susceptible de causer un dommage indépendant de tout état pathologique antérieur. Et nous accueillons au téléphone Mathilde, bienvenue.
Oui, bonjour.
Alors vous êtes infirmière puéricultrice, c'est ça ?
Oui, voilà, c'est ça.
Alors quel est votre regard sur notre sujet du jour ?
Alors, tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit, en fait... Ce qui est important dans une équipe, c'est de communiquer. La parole, c'est vraiment au cœur de notre métier. Et puis, plutôt qu'erreur médicale, on peut dire erreur de soins, parce que c'est vraiment souvent des chaînes. Quand même, on est tous des maillons de cette chaîne. Et si on communique pas entre nous, forcément, ça peut avoir des conséquences sur le patient. Et à premier lieu, en tous les cas, en ce qui me concerne, nous, c'est vraiment aussi les parents qui sont les garants de ça. Quand on a une prescription et qu'on a un doute sur la prescription en tant qu'infirmière, c'est notre rôle d'en parler avec le prescripteur, bien sûr, mais si en plus il y a d'autres intervenants autour de nous, une collègue qui a déjà préparé le traitement la veille, qui dit bah oui, c'est bizarre. Enfin, je vois que c'est pas ce qui devrait être par rapport au poids de l'enfant ou par rapport à. Enfin, il y a plein de possibilités sur des soins, et donc ce soit de l'aide-soins jusqu'au médecin, on est tous une chaîne. Même le pharmacien qui va délivrer le dosage du médicament. Enfin voilà, c'est tout un système où il faut qu'on parle, et parler c'est important parce que en fait s'il y a des experts dans le service ou des experts, c'est aussi de leurs erreurs qu'on apprend. Donc on n'a pas assez l'humilité de parler de ça, quoi. Il y a des CREX, donc ça c'est des comités de retour sur expérience qui sont faits avec des revues de morbidité, ça c'est fait dans tous les hôpitaux, il y a effectivement des temps d'échange quand il s'est passé quelque chose pour pouvoir revenir dessus, mais je pense que c'est dans notre quotidien. Il faut pas hésiter à pouvoir dire « Ah ben moi, j'ai déjà fait cette erreur, fais attention à une nouvelle infirmière qui vient d'arriver quand elle prépare un médicament en disant « Pour ce médicament-là, pose-toi la question si c'est pas cohérent avec ce que tu penses être. » Voilà.
Très intéressant le témoignage de Mathilde, de Christian Morel. Je rappelle que vous êtes sociologue et que vous avez publié « Les décisions absurdes ».
Oui, s'agissant des erreurs médicales, il y a beaucoup de problèmes de communication, échange, coopération, langage. Je vais vous donner un exemple. C'est une étude qui a été initiée à la Pitié-Salpêtrière et dans les services d'urgence. Et on a constaté que lorsque deux médecins, trois fois par jour, discutaient pendant 10 minutes du dossier d'un patient, ça réduisait de près de 50% le nombre d'erreurs médicales.
C'est énorme.
Par rapport à un médecin qui est seul à voir le dossier d'un patient. Autre exemple, la checklist de blocs opératoires permet de réduire, ça a été démontré partout dans le monde, de moitié les accidents mortels de chirurgie. Hein, c'est inspiré de l'aéronautique. Il y a eu une expérience dans des centres chirurgicaux aux États-Unis de formation aux facteurs humains, c'est-à-dire on explique aux gens comment on raisonne, comment on collabore avec d'autres personnes, comment on interprète les relations. Et dans les centres chirurgicaux qui ont bénéficié de cette formation, il y a eu une baisse également de 50% de la mortalité chirurgicale.
Vous citez une étude dans votre livre, Christian Morel, une équipe de sociologues de l'Université du Texas a comparé le travail en équipe dans des blocs opératoires en réanimation et en soins intensifs avec des équipes de cockpit. Alors je précise que les universitaires ont mené une enquête de grande ampleur hein, sur 30 000 pilotes de 40 compagnies aériennes différentes dans 25 pays et sur 15 ans, et il s'agissait parallèlement d'unités hospitalières. Il y a 1033 spécialistes infirmières qui ont été interrogés dans 13 hôpitaux en Italie, en Allemagne, en Suisse, en Israël, aux États-Unis et sur 3 ans. Donc c'est une étude très robuste. Hein.
Oui, absolument. Ce qui est important, c'est de prendre en compte les progrès qui ont été faits dans l'aéronautique. Et dans l'aéronautique aujourd'hui, par exemple, la non-punition des erreurs, elle est institutionnalisée. Mmh. Hein, chère France, lorsque le pilote commet une erreur, c'est enregistré et après il y a une étude de cette erreur, dans laquelle il n'y a pas le nom du pilote, il n'y a pas le numéro de vol. Et si les erreurs sont suffisamment intéressantes pour que tout le monde en profite, c'est diffusé à l'ensemble des pilotes. C'est un peu ce que fait Frédéric avec son action.
Docteur Frédéric Martin, médecin anesthésiste.
Oui, merci. Moi, ce que je voudrais dire quand même, c'est que globalement, pour pas laisser les auditeurs non plus dans l'effroi à chaque fois qu'ils vont aller maintenant consulter, on a un système de santé qui est quand même de plus en plus sûr, avec des gains réels, une technologie qui a avancé, une standardisation, et Christian Morel en parlait avec la checklist, qui a permis de faire des grands gains de fiabilité. Et puis, mais maintenant, il y a vraiment un focus sur les acteurs de première ligne, avec tout ce qui est travail en équipe, communication, les institutions, la haute autorité de santé, les sociétés savantes font énormément de choses pour promouvoir ça, la simulation en santé aussi. Donc toutes ces actions vont porter leurs fruits, mais on a besoin d'inclure tout le monde.
Christian Morel, les conflits au sein d'une équipe de soins peuvent générer davantage d'erreurs médicales. C'est ce qu'a montré une étude d'Elie Azoulay au service de réanimation de l'hôpital Saint-Louis à Paris.
Oui, bien sûr. Par exemple, si dans une équipe chirurgicale, vous avez un chirurgien qui est très autoritaire, qui intimide les autres, à ce moment-là, ça peut paralyser les infirmières à tel point que si une infirmière voit ce chirurgien oublier une compresse dans le ventre du patient, elle n'osera pas lui dire. Donc là, ça implique qu'il il y a une démocratisation des équipes chirurgicales. Il y a eu une expérience qui a montré qu'il y avait des équipes chirurgicales démocratiques. Par exemple, les infirmières suivaient les mêmes formations, les mêmes séances de formation que les chirurgiens et les anesthésistes. Et puis, des équipes autoritaires. Et les équipes démocratiques, entre guillemets, ont été beaucoup plus efficaces pour l'introduction d'une méthode non-invasive de chirurgie cardiaque.
Bruno Timsit.
Oui, je voulais juste revenir sur la question de la checklist, hein, qui est fondamentale, qui a été mise en place dans beaucoup d'établissements aujourd'hui. Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas vraiment obligatoire. C'est ça tout le souci. C'est-à-dire que on est censé, je crois, la faire pour obtenir la certification d'un établissement. Mais en revanche, voilà, il y a encore aujourd'hui des soignants qui ne la pratiquent pas, ou la pratiquent mal, en tout cas, l'appliquent pas forcément très bien. Et ce qui serait peut-être plus simple, je souscris à ce que disait monsieur tout à l'heure sur l'aspect peut-être non punitif. voilà, en effet, c'est intéressant. Mais peut-être que, en contrepartie de ça, il faudrait aussi que ces procédures-là soient obligatoires. Ça paraît quand même assez évident, et qu'aujourd'hui, elles ne le sont pas.
Exemple de checklist.
Dans cet hôpital, on pratique chaque jour des opérations du foie. Et avant chaque intervention, la checklist est appliquée méthodiquement. Une liste de questions posées à 3 reprises à chaque patient, notamment par l'anesthésiste.
D'accord. Alors, s'il vous plaît, vous allez être opéré de quoi aujourd'hui ?
On va m'enlever une lésion au foie.
Très bien. Est-ce que vous avez une allergie à un produit, une allergie alimentaire ?
Non.
Une allergie médicamenteuse ?
Non, non.
Est-ce qu'il y a des dents qui bougent ?
Non, non.
Est-ce que vous pouvez ouvrir grand la bouche et tendre la langue en avant, s'il vous plaît ? D'accord. Très bien. Vous êtes toujours à jeun ?
Oui.
D'accord. Très bien.
Lorsqu'elle est bien appliquée, la checklist permettrait de réduire de 50% le risque d'erreur médicale.
Extrait du documentaire de Bruno Timsit. Cette checklist est préconisée par l'Organisation Mondiale de la Santé avec 19 critères simples et la mortalité chute de façon spectaculaire dans les blocs opératoires qui procèdent à cette checklist. Docteur Frédéric Martin.
Oui, merci. La checklist, en fait, le problème, c'est que ça fait 10 ans, même 12, qu'elle est implémentée. Mais le problème, c'est que moi le premier, hein, on a beaucoup de mal à comprendre à quoi ça sert. On a vu ça comme un outil administratif pour beaucoup. Hein. Alors là, je parle en mon nom. Hein. Mais on n'avait pas les codes. On savait pas à quoi ça servait. En fait, c'est juste un papier qui est là pour vous dire, parlez-vous, dites-vous où vous allez, comment vous y allez, quels sont les risques. Et puis, qu'est-ce que vous allez faire éventuellement à la fin et ce qu'on va discuter ensemble pour dire, bah, tiens, comment collectivement pour améliorer les choses la prochaine fois.
Alors, vous m'avez donné un petit carton, format carte de visite, docteur Martin, à lire avant de rencontrer un soignant. C'est à destination des patients. Vous pouvez nous lire ce qu'il y a sur cette carte?
Déjà apporté, alors on l'a fait avec mon associé François Jolin, on l'a fait dans l'idée aussi de la consultation d'anesthésie, mais apporter ces documents récents. En tant qu'anesthésiste, régulièrement, j'ai des patients qui viennent sans ordonnance, sans compte-rendu. C'est une perte de chance parce que il y a des médicaments que je vais oublier. Osez dire, surtout la chose importante, on ne comprend pas une information, on le dit, on le verbalise. Il n'y a pas de question idiote. J'entendais tout à l'heure dans le reportage « à jeun ». À jeun, ça veut rien dire. En fait, à jeun, c'est pas précis. On parlait de phraséologie. Ça ne veut rien dire. Vous allez au bar en bas, là, au bar Le Balto. Vous allez à 11h, vous discutez avec le gars qui est au comptoir. Vous lui demandez s'il est à jeun. Il va vous dire « ouais, j'ai pas bu d'alcool ». Mais il va pas vous dire. C'est une définition très précise. Donc, ces définitions-là, faut les demander, faut les expliciter. On ferme la boucle de communication. Il y a aussi, si on n'est pas d'accord, on le dit. Si on n'a pas compris, on le dit. Et puis, que vous avez besoin de réfléchir. Et enfin, expliquer aux soignants ce qu'on a compris du projet thérapeutique.
Allez, il est temps de retrouver notre médecin et romancier Baptiste Beaulieu.
France Inter. Grand bien vous fasse.
Non, apparemment, je suis venu un peu tôt, quoi. Je venais une heure plus tard, j'étais peut-être en pleine santé, ça se trouve.
Et voilà, exactement.
Baptiste Beaulieu en duplex de sa bonne ville de Toulouse.
Oui, Ali, ce matin, je voulais attirer l'attention sur ces patients, tous ces patients, qui ne seront jamais comptabilisés comme ayant été victimes du Covid, bien qu'ils soient, et sans l'ombre d'un doute, des dégâts collatéraux de la crise sanitaire. Je m'explique. Plus cette crise dure, plus les services sont débordés. Plus cette crise dure, et plus des soignants tombent malades, doivent s'isoler, et plus ces services ferment ou jonglent avec des effectifs réduits. Concrètement, dans mon quotidien, le mien, cela se traduit de la façon suivante. Quand je pouvais auparavant obtenir une hospitalisation ou un examen paraclinique en urgence, les délais d'aujourd'hui sont considérablement allongés. Et pour obtenir ces rendez-vous, je passe des heures au téléphone en attendant qu'une secrétaire médicale, probablement surchargée de boulot, me réponde. C'est simple, Ali, je consulte. Écoutez bien, je consulte avec le haut-parleur du téléphone allumé les 4 saisons de Vivaldi en fond sonore et j'examine les patients comme ça et je consulte comme ça, j'écoute les patients parler de leurs problèmes ou parfois pleurer comme ça, en attendant que quelqu'un me réponde au téléphone. Cet allongement des délais provoque du retard diagnostique ou du retard thérapeutique. Les patients payent les pots cassés. Certains patients que j'accompagne au cabinet vont mourir à cause de cette perte de chance. Des patients qu'accompagnent mes consoeurs et confrères médecins vont mourir à cause de cette perte de chance. Et l'Institut Unicancer estime à 6000 le nombre de morts liées à ce retard diagnostique et pour la seule pathologie cancéreuse, quid des problèmes cardiaques, neurologiques, etc. Le retard de prise en charge à cause de la crise sanitaire est un drame silencieux, une tragédie qui frappe toutes les familles, qu'elles soient endeuillées par le Covid ou pas, qu'elles soient vaccinées ou anti-vax, pro-ra ou pas, une tragédie qui se fiche complètement de nos débats sans fin, de notre agitation puérile et de tous nos déchirements médiatiques. Non, non, la crise ne nous aide pas à assurer notre mission de soins dans de bonnes conditions pour nos patients. Et oui, nous sommes démunis, abandonnés et nous gérons quotidiennement les conséquences dramatiques de cette crise. Je ne veux pas diviser ce matin, je ne veux pas pointer du doigt les anti-vax, la politique sanitaire désastreuse ou la casse méthodique de l'hôpital public. Je veux parler de ce que les soignants vivent en ce moment, de cette tragédie-là. Alors peut-être c'est un peu vague pour vous, pour les auditeurs, mais pour moi, médecins, pour mes confrères, mes consoeurs médecins, ce sont des visages tous les jours, des patients au quotidien, des patients que nous accompagnons parfois depuis des années, et des familles qu'on doit consoler, dont on doit gérer l'anxiété et parfois la colère légitime. Mais docteur, comment se fait-il qu'on lui ait diagnostiqué son cancer il y a 2 mois et que la chimiothérapie n'ait toujours pas commencé, hein? Comment ça se fait? Le cancer, il va pas s'arrêter de progresser en attendant que les médecins se décident. Comment ça se fait? Voilà les questions auxquelles ces familles nous demandent de répondre. Ils s'inquiètent. Peut-être que chaque jour de retard est une journée perdue pour leur mère, leur père, leurs enfants parfois. Et je ne sais pas quoi répondre à leurs angoisses, et je ne sais pas quoi répondre à leur colère, et je ne sais pas quoi répondre à leurs incompréhensions, et je ne sais pas quoi répondre à leur visage.
Baptiste Beaulieu, vous pouvez podcaster et partager sa chronique sur l'appli France Inter. Dans un instant, nous verrons comment faire face aux erreurs médicales d'un point de vue juridique notamment. En attendant, on écoute Gaël Faye, Histoire d'amour.
Histoire d'amour. Tu sais ce qu'on dit, y'a pas d'amour, y'a que des preuves d'après le juge. Toi t'existais depuis toujours, moi je te cherchais comme une excuse. Médicaments sans ordonnance, évidemment t'es l'évidence. Téléguidé par tes pouvoirs, auprès de toi chaque jour est victoire. Je veux m'endormir à tes échos, éternité cœur en dépôt. Terrain miné sera notre histoire, oh, terminé de tout et pour une fois. Kitoko na yo lokola, sanza na minzoto likolo. Yonde moteme pona ho, yonde na linga. Histoire d'amour, histoire d'amour, histoire d'amour. Oh, 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 histoire d'amour, histoire d'amour, histoire d'amour. Oh, oh, oh. J'ai trébuché, je suis tombé. Tu m'as touché, j'ai succombé. Obsolescence déprogrammée, je t'aime à la perpétuité. Même si le monde est contre nous, je serai fort prêt contre toi. Je me fous de la mort qui dénoue. On se dira oui comme autrefois. Elles poucavent les étoiles entre elles. On balançait ce que je voulais te dire. Toutes les belles choses que porte le ciel ne font qu'imiter ton sourire. Nako kovanda kinyate, mokili ebongi yeba. Bolingo yanga na yo, sukaseliwa. Histoire d'amour, histoire d'amour, histoire d'amour. Oh, 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 histoire d'amour, histoire d'amour, histoire d'amour. Oh, oh, oh. Alléluia, Ave Maria, fameux jardin Mamanaria, à toutes les saintes de Bahia, couleur café, parfum vanilla. Oh mi amor, oh mi le mani, vivre sans toi c'est mimer la vie, c'est les péchés pires, c'est l'hérésie. Oh, c'est les lois loin d'Haïti. Alléluia, Ave Maria, fameux jardin Mamanaria, à toutes les saintes de Bahia, couleur café, parfum vanilla. Oh mi amor, oh mi le mani.
Gaël Faye, interprété Histoire d'amour.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebbi.
11h10 et on s'intéresse ce matin aux erreurs médicales avec l'émission Enquête de santé sur France 5. Standard ouvert au 01 45 24 7000.
Cette loi du silence serait aussi encouragée par les assurances des médecins. Au vu des sommes en jeu souvent considérables, elles interviendraient directement auprès de leurs clients.
Beaucoup de compagnies d'assurance demande au médecin de se taire. Que un mot de compassion ne passe pas pour une reconnaissance de responsabilité.
Vous risquez une procédure pénale. Vous comprenez, on est là pour vous aider. On doit faire notre travail, laissez-nous faire, et n'allez pas trop dans la transparence, et on va mettre en place un scénario. et ils vont raconter une histoire.
La réalité, c'est que les compagnies d'assurance demandent aux médecins d'en dire le moins possible pour éviter de faire de rentrer sur des terrains dans lesquels ils veulent pas que les que leurs assurés rentrent, c'est-à-dire reconnaissance de anticipée de responsabilité.
Bruno Timsit, c'est l'un des aspects les plus déplaisants de votre documentaire, le rôle de certaines compagnies d'assurance de médecins.
Oui, évidemment, puisqu'il y a des enjeux financiers qui sont considérables. Donc les victimes à qui on a donné la parole dans ce documentaire sont confrontées à un double problème, c'est-à-dire déjà il faut arriver à faire en sorte, quand il y a faute, que le médecin reconnaisse sa faute, parce qu'il n'a pas forcément envie de le faire, c'est difficile. Et en plus, il y a ce problème des assurances qui poussent les médecins à ne pas reconnaître leur faute. Et ça, c'est un immense problème, parce qu'il y a des sommes en jeu considérables. Il faut voir quand même que, notamment sur des handicaps extrêmement lourds, on peut parler parfois de plusieurs millions d'euros. Alors c'est évidemment des cas rares, et sont des cas qui sont justifiés, ce sont des personnes qui ont besoin de beaucoup d'assistance, mais dans ces cas-là, évidemment, les assurances, comme pour n'importe quel dommage finalement, mais elles freinent des cas de fer pour payer, pour le faire le plus tard possible, et quand il y a des victimes en face qui sont dans des situations dramatiques, évidemment, c'est catastrophique.
Magali Bouteille-Brigand, je rappelle que vous êtes maître de conférences en droit privé. Pourquoi est-il important d'engager la responsabilité pénale du soignant qui a commis une faute?
Alors, je mettrai un bémol sur ça. Je ne pense pas que la responsabilité pénale, ce soit forcément ce qu'on doit engager. Mm-hmm. D'ailleurs, les actions fondées sur la responsabilité pénale ont fort peu de chances d'aboutir.
Pourquoi?
Parce qu'en fait, il va falloir prouver une faute. Alors, pour ce qui est d'un homicide involontaire, par exemple, il va falloir prouver une faute caractérisée. Donc il faut prouver une faute d'une particulière gravité, un manquement à une obligation de sécurité, etc. En revanche, parce qu'il faut bien avoir en tête ce que c'est la responsabilité pénale. Pénale, c'est punir, alors que la responsabilité civile, c'est réparer. Donc le médecin, il peut avoir commis une faute non intentionnelle, et peut-être que l'intérêt n'est pas trop de le punir, mais qu'il admette qu'il ait commis une faute pour qu'on puisse réparer la victime. Et donc c'est plus sur le fondement de la responsabilité civile qu'on doit se porter pour une réparation. Et donc voilà, enfin, je pense qu'il faut vraiment avoir ça en tête. C'est la responsabilité pénale, c'est très rare quand même pour les médecins. Et en revanche, la responsabilité civile, c'est plus courant.
Christian Morel.
Oui, je voulais ajouter. On a beaucoup parlé de problèmes de communication, échange, coopération. Je voudrais citer aussi les biais cognitifs.
Expliquez-nous.
Alors les biais cognitifs, c'est des erreurs de raisonnement. Il y a les questions ou des façons de s'exprimer. J'ai parlé du langage. Il y a Jérôme Cross qui est un anesthésiste réanimateur qui a écrit un très bon livre qui est disponible en ligne sur la phraséologie médicale que je recommande. Et puis les biais cognitifs, c'est par exemple dans les hôpitaux universitaires de Genève, on a démontré que le fait qu'il y ait deux patients qui ont le même nom, le même prénom, qui sont dans le même bloc et le même jour, ça arrive un jour sur deux. Or, quand vous interrogez les médecins, les infirmières, ils n'imaginent pas cette probabilité. C'est un signe noir, ça n'existe pas. Pourtant, ça existe. Ou bien un autre biais cognitif, c'est l'effet tunnel. C'est l'exemple d'un obstétricien, il doit sortir un bébé et ça se passe mal. Et puis, il s'obstine, il s'entête. Et il essaye, il réessaye, et il y a derrière lui la sage-femme qui lui dit « mais on va pas y arriver, il faut aller en salle de césarienne ». Et il m'a dit « je suis sorti de mon tunnel parce que la sage-femme a fini par me tirer pour aller en salle de césarienne ». Donc ces aspects-là doivent aussi être pris en compte, et j'ajoute que là, c'est parce qu'il avait dit avant à la sage-femme « si tu vois que je fais quelque chose d'anormal, n'hésite pas à me le dire, je suis ton patron ». Mais n'hésite pas à me corriger.
Pour s'attaquer au problème des erreurs médicales de façon pérenne, il faut par exemple intégrer l'erreur médicale dans la formation des médecins et des infirmières. Il faut impérativement l'enseigner, docteur Frédéric Martin.
L'enseigner, c'est important parce que c'est... En fait, l'erreur, c'est... On pourrait la considérer comme une maladie. D'ailleurs, l'OMS la classe dans les 10 premières causes de décès dans le monde. Donc, ça participe à la prise de conscience. À la faculté, tout comme la tuberculose, il faudra apprendre comment on prévient l'erreur, comment on la traite, comment on l'atténue, comment on gère cette situation face aux patients, comment on s'excuse. En fait, c'est pas aux assurances, et je sais pas si on peut être aussi caricatural, mais c'est pas aux assurances de nous dire comment faire. C'est en tant que patient, comment on réagirait si on était à leur place.
Bonjour Véronique, nous terminons cette émission avec vous. Vous appelez de d'Annecy.
Oui, bonjour Ali, bonjour à tous. Merci de me donner la parole.
Merci. Quel est votre témoignage?
Alors En fait, j'ai été témoin, j'ai été victime d'une erreur médicale il y a 2 ans et demi maintenant. Mmh. J'avais besoin d'un examen, enfin d'une ponction sternale, parce que les médecins ne trouvaient pas la maladie dont je souffrais. Et lors de cette ponction sternale, la personne qui devait me faire l'anesthésie locale avant de me prélever s'est trompée, m'a perforé le poumon. Mmh. Donc j'ai fait une tamponade et j'ai été en urgence vitale absolue. Mais je m'en suis sortie, je m'en suis bien sortie. Et dans ce témoignage, en fait, je voulais surtout remercier l'hôpital parce qu'ils avaient reconnu tout de suite la faute auprès de ma famille qu'ils avaient appelée en urgence pour venir. Et ils m'ont très 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 bien suivi par la suite. J'avais l'impression d'être la reine d'Angleterre durant mon séjour à l'hôpital qui a suivi. Et puis je suis toujours suivie par eux puisque j'ai une maladie à vie. Et ça se passe très très bien. Et j'ai pas l'impression d'avoir souffert de séquelles psychologiques. Alors j'ai le poumon qui fonctionne un petit peu moins bien maintenant, j'ai une grande cicatrice qui me traverse le sternum, mais hormis ça, j'ai l'impression que je l'ai bien vécu, et beaucoup mieux même que mes proches ou que les médecins, puisqu'on en a parlé ouvertement.
Merci beaucoup Véronique, en tout cas Bruno Timsit, c'est le contre-exemple. Véronique qui a reçu des excuses, on le voit dans votre documentaire, il est très compliqué pour les soignants qui ont commis des erreurs de s'excuser.
C'est ça, on a une avocate dans le doc justement qui nous dit qu'en 17 ans je crois de pratique professionnelle, une seule fois un soignant s'est excusé. Et ça c'est terrible puisque les victimes ont besoin de cette reconnaissance.
Et pour terminer, 3 mots pour éviter au maximum les erreurs médicales, communication, coopération et anticipation.
Oui, j'insisterai beaucoup sur la communication. Dans l'aéronautique, on dit aux pilotes communiquer, 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 et c'est jamais fait suffisamment.
Merci beaucoup, docteur Frédéric Martin. Merci, Christian Morel. Je recommande Les Décisions Absurdes. Il y a 3 tomes, c'est ça, chez Folio. Ouais. Merci, Bruno Timsit. Votre documentaire Erreur médicale, le combat pour la vérité, sera diffusé demain à 20h55 dans Enquête de santé sur France 5. Et merci, Magali Bouteille. Brigand, n'hésitez pas à podcaster et à partager cette émission. Demain, à l'occasion de la journée spéciale consacrée aux femmes afghanes, on s'intéressera concrètement à leur accueil en France.